On avait un grand primeur dans le quartier, hein, qui avait un magasin immense. Il avait une vendeuse, dont on se rappelle bien, qui était là dehors. Et sur le coup de 6h30, on commençait à aller faire la queue. Alors je me levais, j'allais me mettre dans la queue, même les jours de classe. Alors je me mettais dans la queue. Il y avait déjà du monde. Il commençait à vendre à 7h, 7h30. Hein, on était là. Alors on avançait petit à petit, on avançait. Puis on n'achetait pas ce qu'on voulait. Là, il n'y avait pas de ticket pour les légumes. Mais c'est le commerçant qui disait tant par personne. Donc on avançait. Sur le coup de 7h30, 8h15, ma grand-mère venait me remplacer souvent parce que j'allais à l'école. Bon. Mais il arrivait que, même quand j'y étais moi le jeudi, par exemple, le dimanche, on approchait, on disait, tiens, c'est bientôt mon tour. Il y avait 6-7 personnes devant vous. Et tout d'un coup, ils annonçaient, c'est plus à peine d'attendre, il n'y a plus rien. Il y avait 2 heures que vous étiez là à poireauter, à avancer petit à petit. Et ça arrivait, puis il y avait encore du monde derrière. Plus à peine d'attendre, il n'y a plus rien. Pour les légumes, hein. Les fruits et les légumes. C'est vous dire que ce n'était pas des choses même pas industrialisées, ni quoi que ce soit. Mais c'est parce qu'ils nous ramassaient tout pour envoyer chez eux. Et puis ils voulaient provoquer ça, hein, les Allemands. Mais en réalité, bon, bah, c'était ça, c'est qu'ils nous prenaient beaucoup de choses pour envoyer chez eux. Par exemple, avec ma mère, en 42, 43, elle travaillait, elle était secrétaire, hein. De sténodactylo, comme on disait à l'époque. Elle travaillait dans une fabrique de casseroles. Alors, quand son patron voulait bien lui vendre une série de casseroles, tu sais, une petite, une large, 5-6 casseroles, alors on partait à la campagne, on prenait un train qui nous emmenait dans la vallée d'Azer. Alors, on allait faire le tour dans les fermes. Est-ce que vous auriez 3 œufs à nous vendre? Est-ce que vous pourriez nous vendre 200 grammes de beurre ou 100 grammes? Est-ce que vous pourriez... Alors, si vous aviez la petite casserole, on vous vendait ça. Mais vous le payez, hein, au prix fort. Mais il fallait donner la casserole. Hein, si elle était plus grande, vous avez droit un petit peu plus. Et comme ça, toute la série y passait. Et puis un jour, ça m'est toujours resté, cette histoire, je le raconte toujours. On fait une comme ça avec une fermière. Elle nous donne des œufs, un peu de beurre, on lui donne les casseroles. Puis il y avait une énorme courge sur la table. Vous savez, c'est une grosse courge. Hein. Ma mère lui dit, vous ne pourriez pas nous vendre un morceau de courge, pas nous donner, hein. Nous vendre un morceau de courge. Elle était là, il y avait son mari, là. Oh, puis elle réfléchissait, et puis elle se tourne vers lui, et lui dit, qu'est-ce que tu en penses? On donne aux cochons, on peut bien leur donner un morceau. Comme ça. C'est comme ça. Alors bon, ben on payait son morceau de courge, mais... C'était la réflexion que nous faisaient les paysans. On en donne aux cochons, bon, on leur donnera une trente de moins. Et puis le commerçant, quand vous lui demandez un petit peu plus, si vous aviez les moyens de payer, ça allait. Sinon, moi, j'en ai plus. Ah, c'était comme ça. Hein. Vous aviez droit à tant d'œufs par semaine, à tant de beurre. La viande, c'était 90 grammes, peut-être pour une semaine, je ne sais plus. Hein. Après, vous ne vous en mangez plus, vous débrouillez autrement. Hein. Il fallait vraiment se débrouiller, hein, parce que rien n'est parti. On était en vente libre, comme on dit. Hein, c'était tout rationné, même les vêtements. Hein. Vous ne pouviez pas, vous avez un costume, vous avez une paire de chaussettes, il fallait des tickets. Hein. Il fallait des pour tout. Le pain, c'était tant de grammes par jour que vous avez le droit. Vous n'alliez pas acheter une baguette, vous preniez un ticket que vous donniez. Et puis vous aviez des tickets qui étaient valables de telle date à telle date. Il ne fallait pas laisser passer la date, sinon ils étaient périmés. C'était fini, alors il fallait bien suivre, hein, sur le journal. Ils vous donnaient les dates et tout, il fallait bien suivre. Sinon, vous passiez devant la glace, vous aviez loupé votre tour. Ou vous n'aviez pas utilisé le ticket auquel vous aviez droit. Mais le topinambour, moi pour moi, c'était mangeable qu'en salade. Mais alors cuit, c'était épouvantable, en légumes. C'était que je voulais épouvantable le topinambour. Mais en salade, c'était bon, ça avait un peu le goût d'artichaut. Mais on a mangé beaucoup de chats sans le savoir pendant la guerre. Alors le chat, vous lui coupiez la tête, la queue, vous allez cuire, ça avait le goût du lapin, exactement. Vous alliez chez le marchand, acheter du lapin, et vous vendez du chat, vous n'apercevez même pas. Il y a beaucoup de chats qui ont passé, comme ça, la casserole, c'est le cas de le dire. Mais on en était que tout était tellement rationné que même le gaz, parce qu'on faisait tout au gaz, on ne faisait pas d'électricité à l'époque, on faisait la cuisine au gaz. Mais le gaz était rationné. Vous aviez le droit à tant de mètres cubes. Si quand il venait relever le compteur, vous allez dépasser, il vous coupait le gaz. Alors ma grand-mère avait fait ce qu'on appelait une marmite norvégienne. Il fallait avoir la casserole, un grand faitout, comme elle mettait au milieu d'une caisse en bois, par exemple, l'entourait de coussins autour de la marmite là, qu'elle avait mise. Quand ça bouillait bien, elle mettait et elle éteignait le gaz. On en était là. Alors, elle avait toujours cette même marmite, il ne fallait pas qu'elle s'abîme, elle avait bien pris la dimension, elle avait fabriqué ça tout autour, elle n'était pas la seule à en faire ça. Une caisse en bois, des coussins tout autour, bien, bien serrés, bien autour de la casserole, puis il fallait la sortir sans rien déranger autour. Et elle faisait cuire là-dedans pour économiser le gaz. À part les queues qu'on faisait et le marché noir, j'ai pas de souvenirs précis d'autre chose. Je sais que ma mère, ça devait être encore en vente libre à l'époque, elle achetait pour mon petit déjeuner des boîtes de cacao. J'en ai encore de ces boîtes que j'ai gardées, des boîtes en fer à l'époque. Il n'y a plus de cacao dedans, je vous rassure. Mais on gardait les boîtes pour mettre différentes choses. J'en ai encore de ces boîtes en souvenir. Alors, est-ce que c'était en vente libre? Je ne sais pas. Je sais que c'était mon petit déjeuner le matin, ce cacao. Eleska, il s'appelait. Et Leska. Pour dire, c'est Eleska, c'était ski, c'était leur truc de pub. Moi, je pense qu'on avait faim, mais qu'on ne faisait plus attention. Parce que bon, faire le poids que je faisais 45 kilos à 15 ans, c'est quand même pas épais. Je sais pas combien font les jeunes de 15 ans maintenant, mais je pense qu'ils se pèsent plus que ça. Hein. Moi, je faisais 45 kilos quand je suis parti. Bon, ma mère avait beaucoup maigri aussi. Elle était plutôt forte avant-guerre. On disait ça lui fait pas de mal, etc. Bon, on en plaisantait presque, mais en réalité, ça lui abîmait la santé. Elle est restée au Auschwitz, elle avait 40 ans. Depuis le 17 mars précédent. Quand on est rentré de déportation, on est encore maigre comme des clous, même si on avait passé 2 mois en Suède. Hein. Je parle pas des premiers qui sont rentrés directement des camps. Au début mai 45, moi je suis rentré le 22 juillet, j'étais à Lyon parce que je suis resté 2 mois en Suède. Mais on en parlait aux gens. Bon, vous avez souffert, vous êtes là. Mais alors, le ravitaillement, vous allez voir, c'est autre chose. C'était la réflexion, ça, quand on rentrait. Après, bon, on a pu parler parce qu'on n'avait plus le temps, de toute façon. Mais personne n'a voulu nous écouter, de toute façon.